France Inter.
Aujourd'hui, François le pape écolo, raconté par
Dominique Lang, journaliste au magazine Le Pèlerin, religieux assomptionniste et prêtre.
Cécile Duflo, écologiste de longue date et directrice ONG.
Et Dominique Bourg, philosophe de l'écologie, professeur honoraire de l'Université de Lausanne.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Nous ne sommes pas Dieu, la Terre nous précède et nous a été donnée. Cela permet de répondre à une accusation lancée contre la pensée judéo-chrétienne. Il a été dit qu'à partir du récit de la Genèse, qui invite à dominer la Terre, on favoriserait l'exploitation sauvage de la nature en présentant une image de l'être humain comme dominateur et destructeur. Ce n'est pas une interprétation correcte de la Bible, comme la comprend l'Église. Il est important de lire les textes bibliques dans leur contexte, avec une herméneutique adéquate, et de se souvenir qu'il nous invite à cultiver et garder le jardin du monde. Alors que cultiver signifie labourer, défricher ou travailler, garder signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Et cela implique une relation de réciprocité responsable entre l'être humain et la nature. Chaque communauté peut prélever de la bonté de la terre ce qui lui est nécessaire pour survivre, mais elle a aussi le devoir de la sauvegarder, de la garantir, la continuité de sa fertilité pour les générations futures, car en définitive, au Seigneur la terre, à lui appartiennent la terre et tout ce qui s'y trouve. Pour cette raison, Dieu dénie toute prétention de propriété absolue. La terre ne sera pas vendue avec perte de tout droit, car la terre m'appartient et vous n'êtes pour moi que des étrangers et des hôtes. Cette responsabilité vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu implique que l'être humain doué d'intelligence respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres de ce monde. Encyclique Laudato Si, paragraphe 67, 18 juin 2015. Ce 18 juin 2015, un pape publiait pour la première fois dans l'histoire de l'Église un texte intégralement consacré aux thématiques écologiques. Cette encyclique ayant pour sous-titre « Sur la sauvegarde de la maison commune » a valu à François d'être souvent présenté comme le premier pape écolo. C'est le sujet de notre discussion cet après-midi pour comprendre ce que dit ce texte, sa réception au sein des communautés chrétiennes et s'il est possible d'évaluer son impact sur la prise de conscience de la crise environnementale. Dominique Lang, Cécile Duflo et Dominique Bourg, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Merci de participer à cette discussion. Avant d'échanger ensemble, écoutons le pape François, c'était en septembre 2015, à l'ONU.
Nous, les chrétiens, avec les autres religions monothéistes, nous croyons que l'univers provient d'une décision de l'amour du Créateur qui permet à l'homme de se servir avec respect de la création pour le bien de ses semblables et pour la gloire du Créateur. Mais l'homme ne peut abuser de la création et encore moins n'est autorisé à la détruire.
Dominique Lang, vous racontez dans votre ouvrage « Génération Laudato Si », vous racontez que si la publication de ce texte a d'abord touché au cœur de beaucoup de militants écologistes de la première heure, le pape a quand même souvent rappelé que son encyclique était d'abord une réflexion à dimension sociale.
Oui, c'est très important. C'est de là qu'il vient. C'est cette thématique-là qu'il a portée. On l'a vu dans tous les gestes qu'il a posés autour des migrants et tout ça. C'est vraiment sa grille de lecture. C'est qu'un monde en difficulté, un monde qui souffre ou un monde simplement qui cherche du sens, a tout à gagner à repartir toujours des plus pauvres, des populations autochtones, des populations qui sont sur les fronts. Et quand on prend ces populations en compte, alors les systèmes peuvent guérir, les systèmes peuvent reprendre du sens. Et donc c'est comme ça aussi qu'il a pris conscience de la crise écologique.
Cécile Duflo, vous qui avez forgé votre militantisme au sein de la jeunesse ouvrière chrétienne, quelques mois après la publication de cette encyclique en 2015, vous aviez participé à une lecture organisée par les jésuites du Centre de Recherche et d'Action Sociale. Qu'est-ce qui représente ce texte pour vous ?
Bah justement, cette invitation était quelque chose de très surprenant pour moi. Je me suis posé la question de savoir pourquoi, et en fait, je pense que ça signifiait ce que a donné la lecture de cette encyclique, c'est-à-dire l'obligation d'un dialogue entre les écologistes et l'Église, ce qui était quand même quelque chose d'assez très, enfin, de très très marginal. Ouais. Ça existait, mais dans des tout petits cercles. Là, il a forcé à une sorte de rencontre et d'échange. Et je me souviens très bien que la lecture de l'encyclique a été pour moi à la fois une grande surprise et une grande, je ne sais pas si satisfaction c'est le bon terme, mais en tout cas, oui, une très heureuse surprise. Mmh. Parce que c'est un texte très puissant et c'est un texte très écologiste qui lie les questions sociales et les questions environnementales, justement, qui parle de la science, qui parle de la responsabilité des hommes. Donc c'était... C'est un moment particulier, ce moment de rencontre entre des écologistes militants, ce que j'étais, ce que je suis toujours, mais ce que j'étais particulièrement, et l'Église catholique.
Dominique Bourg, cette encyclique du pape François, c'est un texte facile d'accès par rapport aux envolées théologiques habituelles dans ce genre de récit. Est-ce que c'est aussi finalement ce qui explique la popularité de cette encyclique ?
Peut-être, mais c'est surtout le premier texte d'une institution qui soit à la mesure du défi. On nous raconte toujours qu'on s'en sort avec des techniques. Ok, d'accord, mais la décarbonisation, c'est des enfants de moins de 7 ans qui sont esclaves pour le cobalt de nos téléphones, etc. C'est toutes sortes de choses-là. Là, non, le paragraphe que vous venez de lire, là, le paragraphe 67, est très clair. Répondre aux enjeux écologiques, c'est basculer de civilisation. C'est vraiment changer profondément nos modes de vie et commencer par tenir compte, si vous voulez, du fonctionnement des écosystèmes. D'ailleurs, en fait, nos émissions de gaz à effet de serre, elles ont produit un effondrement des capacités des écosystèmes à absorber du carbone. C'est une des raisons pour lesquelles ils s'accumulent dans l'atmosphère. Donc, si vous ne respectez pas les écosystèmes, de toute façon, quelles que soient vos techniques, vous n'y arriverez pas.
Dominique Lang, est-ce qu'avant de devenir pape, Georges Mario Bergoglio avait manifesté un intérêt particulier pour l'écologie et la question climatique ?
Ça s'est fait progressivement, il le raconte lui-même à plusieurs reprises. Et ce qui a été le déclic pour lui, au départ, c'était un prélat argentin, un jésuite, qui a formé des gens, et puis qui est devenu archevêque de Buenos Aires, etc. Et le déclic pour lui s'est passé en Amazonie, puisqu'il était secrétaire du CELAM, qui est la structure qui rassemble les évêques de l'Amérique du Sud. Et il participe à une grande rencontre dans cette région du monde, au Brésil. Et là, il entend, peut-être pour la première fois de manière aussi intense, ses collègues évêques du Brésil, de l'Amazonie, racontant ce qui se passe sur le front amazonien, à la fois la destruction de l'écosystème et puis la maltraitance sociale des populations, des petits paysans, des populations autochtones, etc. Et pour lui, ça a été un déclic où il a pris la mesure du défi. Et ce n'est pas étonnant que 10 ans ou 20 ans plus tard, il lance le synode amazonien qui a été une première réponse à ce scandale. Ouais.
Comment il a préparé son texte, cette encyclique ? Est-ce qu'il a travaillé avec des écologistes là-dessus ? Est-ce que c'est le fruit d'une longue maturation ? Est-ce que vous connaissez le contexte de l'écriture, justement ?
Je ne l'ai pas dans le détail, mais très souvent, ces textes sont composés en plusieurs étapes. On annonce le sujet, puis c'est renvoyé dans des groupes de travail avec des experts qui nourrissent, qui donnent de la documentation, etc. Et après, je pense que chaque pape le fait un peu à sa manière. Et on sent bien les moments où c'est vraiment le pape François qui s'exprime. Autant, par exemple, le premier chapitre, qui était vraiment un chapitre d'analyse de la situation, là, on sent que les experts ont beaucoup travaillé.
Cécile Duflot, le pape, en choisissant ce nom de François, en hommage à Saint François d'Assise, a finalement aussi marqué, dès les premières minutes de son pontificat, sa sensibilité à l'écologie quand même.
Oui, j'ai une petite anecdote qui est très personnelle. Au moment où il a été élu, j'étais aux membres du gouvernement et donc je me souviens très bien que quelqu'un de mon équipe est rentré dans mon bureau et m'a dit « T'as vu comment il s'appelle ?» Et j'ai dit « Ouais, c'est dingue !» Enfin, on était dans une période, alors moi j'ai été baptisée, comme vous l'avez dit, j'ai été grandie, notamment de façon militante dans l'Église catholique, mais j'étais très 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 éloignée, et Benoît XVI, c'était un autre monde par rapport au mien, vraiment. Et donc là, il y avait une espèce de chose un peu surprenante, et c'est vrai que c'est fou d'ailleurs d'y penser à quel point juste un nom, en l'occurrence un prénom, peut annoncer beaucoup de choses, parce que de fait, il a été fidèle à son prénom.
Dominique Lang, il faut expliquer peut-être, parce que Saint-François est connu pour être l'ami de la nature et des animaux, mais peu de gens savent qu'il a également été patron céleste des écologistes, parce que Jean-Paul II, justement, l'avait nommé ainsi en 1979.
Oui, c'était le deuxième voyage, d'une certaine manière, la deuxième sortie de ce jeune pape polonais qui vient d'être élu en 79. Il va sur la tombe de François d'Assise, qui l'admirait, il prie, et en rentrant à Rome, il publie cette bulle, donc qui est un texte officiel, où il nomme François pape céleste des écologistes. peut-être juste pour compléter, je me suis un peu interrogé d'où venait cet amour de François, de ce pape polonais. Et en fait, il, comme archevêque de Cracovie, il connaissait bien les Capucins sur place, donc ils sont des religieux de la famille franciscaine. Et ces Capucins étaient très engagés dans la lutte avec Solidarnosc, dans les villes ouvrières militantes. Et ils dénonçaient non seulement la violence sociale des populations, enfin, que les populations subissaient, mais aussi la dégradation de la Vistule, de tous les grands fleuves polonais qui étaient devenus des poubelles à ciel ouvert. Et c'est à partir de cette prise de conscience que ça s'est transmis jusqu'à Jean-Paul II.
Dominique Bourg, est-ce que cette encyclique a fait entrer l'écologie dans une dimension beaucoup plus politique pour la chrétienté, justement ?
Alors, Dieu merci, elle y était. Hein. On commence à comprendre, moi, d'autres l'ont compris bien avant, mais à partir des années 60, 70, que répondre aux questions, aux enjeux écologiques, c'est nécessairement réformer la société. Donc, en ce sens-là, si vous voulez, c'est politique. Oui, en fait, la différence entre le pape Jean-Paul II et, par exemple, François, mais François, c'est l'objet d'une encyclique, et puis, surtout, la prise de conscience de la nécessité d'une bascule de civilisation avec un fondement théologique assez ferme. Ça, c'est vraiment un apport extrêmement nouveau. Et puis, par ailleurs, c'est un texte qui, précisément parce qu'il se situe à ce niveau-là, a beaucoup parlé à tous les milieux écolos, si vous voulez, du militant, jusqu'à ceux qui passent leur vie à réfléchir sur le sujet.
On en parlera évidemment de sa réception dans un instant. Cécile Duflot, dès le début de ce pontificat, vous avez vu une Église, vous, beaucoup plus engagée. Et même ce texte en lui-même, c'est quand même très surprenant, parce que quand on le lit, on pourrait quasiment le reprendre mot pour mot dans la bouche d'un écologiste.
Ah oui, j'avais rigolé en disant à ce fameux débat dont vous parliez au Centre Sèvres, j'avais dit ça pourrait être quasiment un texte de congrès des écolos. Donc oui, bien sûr, parce qu'il y a la vision de la dette écologique, c'est la vision d'un écologiste du Sud en plus. Hein, c'est une vision qui n'est pas surplombante, c'est une vision incarnée, c'est une vision qui mêle de façon très forte, mais ça a été dit, hein, les questions sociales et la place et le rôle de la nature. Donc oui, c'est évidemment que c'était très étonnant. Je veux dire, là, c'est déjà qu'il y ait un texte écrit par un pape sur ces sujets-là, c'était quand même pas habituel. Mmh. Et Dezio, avec cette qualité-là, parce que honnêtement, il faut reconnaître la qualité de ce texte, le souffle qu'il y a dans ce texte, oui, c'était très très surprenant.
Et il invite Dominique Lang, tout le monde, à passer à l'action rapidement et globalement. Il était à deux doigts de passer pour un dangereux éco-terroriste, finalement, bon, François.
Certains le disent, de toute manière, hein, qui ne l'apprécient pas. Mais ce qu'on peut signaler aussi, c'est que, à la suite de ses prédécesseurs qui ont écrit des textes sur l'écologie, etc., là, pour la première fois, il y a un pape qui dit « on passe à l'action ». On arrête de parler, on passe à l'action.
L'écologie intégrale, on va en parler également dans un instant avec vous, voir la réception aussi de ce texte important auprès de la communauté chrétienne, et puis vos messages, vos questions sur franceinter.fr, à la page de la Terre au Carré.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
La bataille culturelle qu'a menée ce pape en particulier sur des sujets qui me tiennent à cœur en tant que secrétaire national des Verts, évidemment sur l'écologie mais aussi sur le social, sur la technologie, il a porté des discours très forts, courageux, et donc on a été un peu soufflé quand on a lu l'encyclique Laudato Si, puis l'exhortation apostolique Laudate Deum, c'était des mots qui étaient très forts, et quand j'ai lu ça, c'était au moment où le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, nous qualifiait de terroristes. Et je m'étais dit, mais il a mieux compris l'écologie, le pape, que la plupart des politiques français.
La voix de Marine Tondelier, c'était mardi. François le Pape écolo, dossier de la Terre au Carré avec nos invités, le journaliste et prêtre Dominique Lang, Cécile Duflot d'Oxfam France et le philosophe Dominique Bourg. Cécile Duflot, beaucoup d'écologistes ont pu s'étonner d'entendre Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes, tenir des propos aussi élogieux sur le Pape, de découvrir d'ailleurs, la découvrir aussi en tant que catholique. Est-ce qu'à gauche, c'est politiquement incorrect d'afficher des convictions religieuses ?
D'abord, il y a deux choses différentes. Il y a les convictions religieuses et l'exercice de son mandat ou de ses responsabilités. Et donc, à partir du moment où on est très au clair avec la laïcité, ça implique que chacune et chacun est libre de croire ou de ne pas croire, et que ça n'impacte pas sur les décisions. Alors, moi, il se trouve que...
C'est d'ailleurs le sujet de la polémique sur les drapeaux en berne pour le pape samedi, à l'occasion des obsèques, hein.
Oui, alors c'est vrai que la France a une longue histoire. Hein. Moi, je trouve que relire la manière dont la loi de séparation de l'Église et l'État a été votée et le niveau de conflit, on était au bord de la guerre civile à l'époque, hein. Il y a eu des violences extrêmement graves. ça laisse des traces, et on voit qu'elles existent encore, donc avec des réactions qui peuvent être des réactions assez viscérales de part et d'autre d'ailleurs. Donc il faut faire très attention à garder cet équilibre qui a été trouvé, qui permet une chose précieuse qui s'appelle la paix civile d'un pays. Donc déjà Marine Tondelier, donc pour répondre, elle dit exactement ce qu'elle veut, mais je pense que, en tout cas moi, à l'époque où j'ai commencé à dire que j'étais catholique, c'est parce qu'en fait on sommait un certain nombre, notamment de mes collègues femmes politiques, qu'on imaginait musulmanes du fait de leur origine, de se positionner par rapport à la religion musulmane. Et un jour, de manière un peu bravache, j'ai dit « mais personne ne me demande de dénoncer les extrémistes catholiques sous prétexte que je suis catholique ». Et du coup, ça s'est emballé et j'ai été amenée à en parler. Puis ensuite, il y a eu le pape qui forcément a mis la question dans la discussion. Mais je pense qu'il faut être... je pense qu'on peut être à l'aise avec ces questions de religion. Et personne ne pense... pas qu'on puisse aujourd'hui ne pas être catholique et féministe, favorable au mariage pour tous. Voilà, ça existe dans la société, ce dialogue.
Plein de gens de gauche, c'est presque un coming out finalement, hein, quand on entend des écolos avouer qu'ils sont catholiques.
Alors, il y a des sociologues qui ont travaillé sur les écologistes et qui avaient constaté qu'il y avait un patrimoine, on va dire, ou plus exactement une filiation, d'ailleurs, entre une certaine famille catholique, hein, qui n'est pas celle qui est le plus en situation de responsabilité, et une partie du mouvement écologiste qui s'explique peut-être parce qu'a dit tout à l'heure Dominique Bourg, c'est-à-dire des espèces de perméabilité historique. Ensuite, je pense vraiment que... on a besoin, pour être très efficace contre les extrémistes et les extrémismes, d'être à l'aise aussi avec le fait que la religion peut se vivre de manière détendue. Voilà.
Dominique Lang, vous aviez une petite anecdote à nous raconter au sujet des liens entre le pape et les politiciens aussi de gauche en particulier, ou les Verts.
Oui, alors il faut remonter un peu, puisqu'en l'occurrence c'est Benoît XVI. Cécile disait qu'elle était moins à l'aise avec ce pape-là, et on peut comprendre, parce qu'il avait, c'était plus un intellectuel, il avait une approche un peu plus froide. Mais quand il a fait sa visite au Bundestag, au Parlement allemand, et qu'il a fait son discours devant ce peuple qu'il aimait, c'était le sien. Et le mouvement vert de l'époque, qui pourtant a toujours été à l'avant-garde en Europe sur ces questions-là, avait fait la politique de la chaise vide en disant « nous ne voulons pas accueillir ce pape », etc. Mmh. Et dans son discours, c'est très beau, le pape brode sa réflexion et à un moment donné se tourne vers ces chaises vides et rend hommage au mouvement écolo en disant « mais vous avez été à l'avant-garde de cette prise de conscience écologique qui est décisive pour l'avenir de l'humanité, etc. » Et donc il remercie symboliquement ces gens, et c'était très habile de sa part, parce que c'était une manière aussi de leur faire un pied de nez, en disant « c'est dommage qu'on n'ait pas pu se rencontrer ».
Dominique Bourg, avec le Laudato Si, le pape donne à l'écologie une dimension globale, intégrale, en l'incluant dans des enjeux sociaux, économiques et culturels. Comment est-ce qu'il faut entendre cette notion d'intégralité qui n'est pas toujours bien comprise? On entend plus d'ailleurs intégriste qu'intégrale. L'écologie profonde ou radicale, c'est une philosophie écologiste, Dominique Bourg?
Oui, pour le coup. Alors, l'intégrale, ça veut tout d'abord dire, c'est la fameuse citation de Leonardo Boff, hein, sur la clameur des pauvres et la clameur de la terre, qu'on ne peut pas distinguer les questions écologiques des questions sociales. Et il faudrait rajouter, et il le fait d'ailleurs, des questions techniques. En fait, les trois sont liés. La technique, ça va permettre... Enfin, un certain usage des techniques va permettre de détruire les écosystèmes, mais en fait, d'esclavagiser une partie de l'humanité. Donc, en fait, on ne peut pas séparer les trois. Ça, c'est la première chose. Alors, après, le intégral, il va couvrir aussi des aspects moraux qui sont moins évidents. Par exemple, je crois que c'est le paragraphe 53 où... il nous dit qu'il n'y a pas de relation entre l'écologie et la démographie. Ben non, ça c'est une bêtise. Bien sûr qu'il y a un lien fondamental. Nous sommes des animaux et si on est trop nombreux sur un écosystème, ça pose des problèmes. On pourrait dire aussi que ce côté moral, il va faire que... Et ça, c'est une des critiques qu'on peut adresser à l'encyclique. En fait, il n'y a rien sur, par exemple, l'écoféminisme. Alors que, si vous voulez, bien, l'écologie, c'est refuser la domination de la nature, mais vont de pair avec la domination de la nature, la domination des riches sur les pauvres et la domination des hommes sur les femmes. Et en ce sens-là, l'écoféminisme, ben, c'est l'écologie tout court. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas écoféministe, vous êtes pas, vous intéressez pas à l'écologie. Ça, puisque l'écologie, c'est lutter contre ces trois types de domination. Là, c'est aussi une critique qu'on peut faire à l'encyclique.
Justement, Cécile Duflot, pape progressiste sur l'écologie, on aurait aimé, disait d'ailleurs également Marine Tondelier, que le pape soit aussi visionnaire sur le droit des femmes, sur les personnes LGBT, sur les violences sexuelles dans l'Église. Vous partagez aussi cette critique ?
Ah ben, ça reste toujours une frustration, mais comme il se trouve que l'Église catholique a été en partie la cause de mon féminisme, parce qu'à 16 ans, il y avait une voie d'orientation totalement différente entre les hommes et les femmes, je vois bien que le chemin qui reste à parcourir, oui. Après, c'est vrai qu'on aurait pu espérer que ce pape aille plus loin, mais c'est quand même toujours un pape, et c'est toujours l'Église catholique, et c'est une grosse machine qui... vu avec mon regard et ma sensibilité, devrait encore aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite pour être d'ailleurs plus fidèle à ce que je crois être profondément le message des évangiles. Mais j'ai bien conscience d'être assez, que les gens qui pensent ça sont encore minoritaires.
Dominique Lang, votre sentiment là-dessus? Parce qu'il y a un enjeu aussi de responsabilité pour l'Église d'être capable aujourd'hui de mener une vraie bataille culturelle sur ces sujets-là, d'environnement, de solidarité.
C'est évident. Hein. Je pense que quand on écoute un peu les discours de François et ses prises de position, parfois maladroites, quand il s'exprime un peu librement, etc., la grande crainte, je pense, de tous les papes, mais de celui-là aussi, c'est de se faire récupérer par une idéologie, de tout d'un coup tomber dans un discours formaté, et on se retourne en disant « mais en fait, c'était pas vraiment ça que je pensais ». Et donc, il y a cette résistance d'entrée de jeu, et c'est pour ça que les thématiques de l'écoféminisme et d'autres thématiques qui sont passionnantes, qui sont effectivement à développer dans l'avenir, et moi je le vois dans mes propres communautés chrétiennes, on voit des femmes qui se lèvent et qui prennent la parole, etc. Mais dès que ça devient idéologisé au nom d'un discours, d'une grille de lecture qui fait tout passer dans cette vision-là, là, ça résiste dans le monde chrétien.
Dominique Bourg, cette encyclique, est-ce que la conversion spirituelle a pu entraîner, selon vous, une conversion écologique des pratiques chez les chrétiens, chez les jeunes gens d'ailleurs en particulier? Alors, c'est compliqué peut-être de l'estimer comme ça, mais c'est quoi votre intuition sur le sujet?
Alors, je ne suis peut-être pas le plus habilité pour répondre. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un renouveau, si vous voulez, de position plus à gauche, parfois une gauche bien, bien affirmée. En général, c'est inséparable de Laudato aussi. Et que ça a marqué certains milieux. Une simple anecdote, quelques années avant l'encyclique, j'avais été invité pour parler d'écologie à Lourdes face à l'Assemblée des évêques. Hein. Et je dois dire qu'à part quelques-uns au premier rang, ils n'en avaient vraiment rien à faire. Et juste après l'encyclique, alors pour le coup j'ai été invité à nouveau, mais cette fois-ci c'était par les trois évêques du Grand Est, et là l'écoute était tout à fait différente. Alors on a l'impression, je ne sais pas si c'est juste, mais que le message, en tout cas vis-à-vis de l'institution, c'est un peu estompé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de droitisation générale qui fait qu'on voit moins ça. Et d'ailleurs, dans la manière dont la presse a accueilli la mort de François, l'écologie n'était pas très très présente. Mais en revanche, ça a vraiment labouré des sillons de fond. Je sais pas, on peut citer un festival comme celui des Poussières en Bourgogne à la fin août, où là, ben, vont se retrouver des chrétiens. D'ailleurs, ça peut être plus là. Et là, l'encyclique, me semble-t-il, est très présente.
Ouais, Dominique Lang, vous en parlez abondamment dans votre livre « Génération Laudato aussi », avec cette encyclique qui a quand même du mal à trouver des applications immédiates dans ces lieux, au cadre naturel, par exemple pour les monastères. Vous parlez des diocèses et vous posez la question de leur transition. On pourrait poser la même d'ailleurs pour le Vatican. Quels sont les effets de ce texte concrètement? Parce que vous êtes assez réservé quand même sur ces effets réels. Hein.
C'est paradoxal. C'est-à-dire, prenons l'exemple des monastères. Les monastères, spontanément, quand j'ai commencé à écrire mon texte et puis que je passais dans ces lieux-là, je me disais, ils vont être en première ligne de l'accueil de ce texte, etc. Sauf que la réalité sociologique de ces lieux, les monastères sont souvent animés par une génération plutôt âgée, de gens issus de l'après-guerre, pour le dire rapidement, et qui donc, cette thématique-là, ils ne la comprennent pas. C'est même pas qu'ils ne veulent pas la travailler, c'est qu'ils ne la comprennent pas.
Alors qu'ils vivent dans la nature, quand même.
Ils vivent dans des lieux extraordinaires, de nature. Je me souviens toujours des journalistes qui étaient allés à Sénanque, dans cette magnifique abbaye, avec des champs de lavande autour, et ils leur avaient demandé, mes chers frères, vous êtes bio ici? Vous êtes en... Oui, bien sûr, nous sommes bio. Mets un petit coup de Roundup dans les allées pour que ça soit bien propre, bien sûr. Et ils ne comprenaient pas en quoi c'était devenu choquant, ce genre de pratique. Mais maintenant, en même temps, on voit maintenant, depuis 10 ans, et un peu plus longtemps, mais maintenant de plus en plus fort, que même dans ces lieux-là, les jeunes générations qui arrivent pose cette question tout de suite pour dire si je reste ici, il faut que je travaille cette question.
Cécile Duflot, il y a un enjeu pour l'écologie justement de pouvoir mieux parler aussi à la communauté chrétienne?
Il y a un enjeu de mieux parler à tout le monde. Enfin, on est quand même dans un moment qui ressemble un peu à un backlash où des discours anti-écolo apparaissent comme porteurs, voire utiles électoralement. Ce que je trouve assez stupéfiant, mais ça oblige quand même les écologistes à une forme de questionnement sur comment mieux parler aux uns et aux autres, comment pas donner le sentiment que l'écologie peut être excluante ou peut être brutale. C'est pour ça que lier les questions de lutte contre les inégalités et les questions de lutte écologiste sont pour moi absolument fondamentales. C'est une manière de répondre. Et oui, s'adresser aux gens différemment, par différents canaux, par des choses qui leur parlent davantage, c'est évidemment très utile. Et donc, la façon dont le pape François a parlé d'écologie a permis d'avoir sans doute accès aux frères qui mettaient du Roundup dans les allées, quoi. J'espère, en tout cas.
Dans le monde agricole, d'ailleurs, qui est le terrain quand même traditionnel d'une présence chrétienne dans beaucoup de régions, vous le rappelez aussi dans votre ouvrage Dominique Lang, le modèle productiviste et intensif, est-ce qu'il a été contesté par les instances catholiques, par exemple ?
Non, aujourd'hui pas. Il y a des textes de personnalités qui parfois le font, mais globalement il ne l'est pas. Entre autres parce que le monde rural, pour prendre l'exemple de la France, après-guerre a été accompagné notamment par la jeunesse agricole catholique, la JAC et tous ces mouvements d'action catholique qui ont fait émerger des jeunes leaders issus du monde rural, d'un monde souvent pauvre, l'ont fait sortir un peu socialement de sa misère, enfin accompagné ce mouvement. Et les leaders qu'ils ont formés, ce sont ceux qui sont rentrés ensuite dans les coopératives, dans les syndicats agricoles et aujourd'hui encore la FNSEA par exemple est remplie d'un certain nombre de gens qui ont été formés dans ce mouvement-là. Et donc évidemment dans une approche où le progrès était forcément une bonne chose. Le progrès était forcément dans le sens de l'histoire, parce que les catholiques étaient pisse-vinaigre pendant des siècles avec la science, etc. Et donc, il fallait montrer des signes de, bien sûr, que nous allons dans le sens du progrès. Mais jusqu'à l'aveuglement et jusqu'à s'empêcher de penser un peu plus librement.
On va écouter cette archive d'Euronews du 17 avril 2019, la rencontre entre le pape François et Greta Thunberg.
C'est au Vatican que Greta Thunberg a continué son combat pour sauver la Terre du réchauffement climatique. L'adolescente de 16 ans a rencontré le pape François, qu'elle a félicité pour son soutien. De son côté, le Saint-Père lui a conseillé de poursuivre son action. La jeune militante a fait ensuite un discours émouvant, expliquant qu'il fallait sauver la Terre avec la même énergie que Notre-Dame.
Dominique Lang, il faut rappeler que l'encyclique est sortie le 18 juin 2015 et quelques mois plus tard, en novembre, c'était la COP21 donc, au Bourget, avec l'accord de Paris évidemment. Est-ce qu'il y a eu une concomitance qui avait été bien calculée là, justement entre les dates ?
Alors, je ne suis pas dans la tête du pape François, mais en tout cas, il me semble que oui. On l'a vu d'ailleurs avec Laudato Deum, c'était la même chose. C'est des textes qui sont sortis avant des COP importantes.
Ouais, Laudato Deum, c'était 2023.
Voilà, c'est une espèce de complément.
Réactualisation,
voilà, réactualisation, on pourrait dire. C'est ça. Et il y a avait visiblement la volonté d'influer sur les débats en cours en disant « Messieurs les politiques, le monde des religions, le monde des croyants, etc. font partie de ce monde-là et nous sommes, nous aussi, très souvent sur les fronts de cette crise écologique et donc nous voulons que vous agissiez. »
Vous dites que des pèlerins climatiques sont arrivés de toute l'Europe au moment de la COP21.
Oui, c'était très frappant, et même parfois de plus loin. Hein, et Yep Sagnio, qui était le délégué philippin qui avait pleuré pendant la COP19 à Varsovie parce que son pays était dévasté par des typhons colossaux, est venu à pied traverser l'Europe.
Et est-ce que les paroisses en France ont pris la mesure de ce qui se jouait là pour l'avenir de la planète au moment de la COP21, par exemple, ou pas ?
Non, regardez, le diocèse de Paris était très très peu mobilisé. Il ne comprenait pas, en fait, ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est peut-être tout aussi intéressant parce que c'est pas à Paris que ça s'est passé, c'est dans la Seine-Saint-Denis. Et c'est à la Seine-Saint-Denis, dans ce
département lieu, le plus pauvre de
France. Le département le plus pauvre, le plus mélangé, etc., que cette prise de conscience s'est faite. Et c'est sûrement un signe, à mon avis.
Cécile Duflot, est-ce que le Laudato aussi a pu peser sur l'accord de Paris, à votre avis, ou pas ? Est-ce que ce texte a eu une influence ? Ce que laisse entendre Dominique Lang.
Ça me paraît... En fait, ça me paraît assez net parce que je voulais aussi réagir à ce que vous avez passé de l'échange entre le pape François et Greta Thunberg. Il n'y a pas beaucoup de leaders globaux sur notre planète. Et de fait, le pape en fait partie, parce qu'il parle même au-delà de sa stricte église. Greta Thunberg a aussi incarné cette forme-là, c'est-à-dire de parler à l'ensemble du monde. Et donc, il y avait cette espèce de pression dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de mettre ce sujet à l'agenda hors des cercles traditionnels. Et ce que vous venez de dire à propos du lien avec la science, ce qui est intéressant, c'est que dans cette encyclique, il s'appuie sur le constat des scientifiques. Donc il y a une couche de plus, j'allais dire, de validation de la nécessité de l'action. Donc oui, ça a fait partie de ce climat avec les marches pour le climat, avec, j'allais dire, une forme de conjonction de différents événements et de pression qui participe d'ailleurs d'une volonté de trouver un accord des participants à ce type de sommet.
Vous avez eu un doctorat en sciences d'ailleurs, hein, Dominique Lang, vous qui êtes journaliste et prêtre également. Est-ce qu'il y a un combat à mener aussi au sein des chrétiens autour du climato-scepticisme, du créationnisme ?
Hélas, oui, il y a. Alors c'est un peu comme dans la société française, ce sont des minorités très actives qu'on entend souvent beaucoup plus que la majorité silencieuse. Et là où Ad Deum, notamment, cette deuxième version, enfin ce complément, visiblement affrontait plus directement cette tendance-là, parce qu'on voit bien que derrière la critique de la crise climatique, il y a une forme de conservatisme, une forme de vision économique du monde qui est presque incompatible avec ce que dit le pape François.
Dominique Bourg, comment vous la voyez, notre maison commune, aujourd'hui, vous ?
Ah, très mauvais état, vous le savez très bien. Vous-même, c'en est même dramatique. Et c'est probablement ça d'ailleurs qui explique la force du déni aujourd'hui. Hein. Regardez du côté des États-Unis, du côté de Trump, si vous voyez les gens de la tech, un Peter Thiel là, qui ne pense qu'à une chose, c'est ce qu'il appelle le sea-stealing, c'est-à-dire de se sauver en construisant des îles artificielles sur l'océan, et évidemment des îles esclavagistes, bon ça commence déjà bien, ou l'autre fou de Musk qui veut aller sur Mars. En fait, ces discours-là avalise le fait que pour eux, la destruction de l'habitabilité de la planète est une chose quasi acquise et en cours. Mmh. Après, vous avez la deuxième veine, c'est les évangéliques. Alors eux, c'est pour des raisons assez bizarres, mais ils vont être aussi dans une optique d'effondrement. Puis vous avez la masse des magas, bon, qui sont les gens un peu vulnérables, égarés, et à qui on va faire avaler la pilule du climato-scepticisme. Donc c'est assez compliqué. Il y a de la manipulation. Et puis parfois, ce qui se donne comme climato-sceptique est au contraire une reconnaissance de la radicalité du problème et une affirmation de la volonté de ne pas changer, d'essayer de maintenir jusqu'au bout ses privilèges, quitte à tout détruire.
Dominique Lang, le prochain pape sera-t-il écolo ?
Je mets au défi qui...
Vous n'êtes pas dans le conclave, hein, mais...
Non, là, en tout cas, ce qu'il faut dire pour ceux qui parfois sont un peu inquiets en disant est-ce qu'on va revenir à une figure un peu plus, plus conservatrice, etc. Je n'en sais rien, personne ne le sait. Mais ce texte-là, Laudato Si, est un texte d'autorité suffisante pour les chrétiens, pour les catholiques, qui fait que ceux qui ont envie de continuer à s'engager là-dessus ont toute légitimité à le faire et le feront.
Et la sobriété au Vatican, ça veut dire quelque chose ou
pas ? Alors là, c'est quand même assez intéressant, on n'en parle pas beaucoup. Alors évidemment, quand vous allez dans les grands palais de Renaissance de la cité du Vatican, on ne voit pas trop grand-chose.
Non, mais, vraiment, oui.
Mais quand même, le pape François a quand même demandé qu'il y ait une cohérence entre ce qui a été dit et ce qui a été fait. Et donc, il y a un projet que la cité du Vatican passe aux énergies renouvelables de manière intégrale d'ici 5 ans, je crois, c'est assez court.
La papa mobile était électrique, paraît-il. Hein.
Oui, alors ça c'est vraiment un peu anecdotique, à mon avis.
C'est moins compliqué.
Et ce qui est plus intéressant, il y a aussi une ferme qui a été transformée pour produire l'alimentation pour la cité du Vatican, etc. Donc il y a quand même des choses assez concrètes qui ont été mises en place.
Pas trop de produits chimiques dans la fumée blanche qui va s'échapper de la chapelle Sixtine ?
Ah, ça je ne peux pas vous dire.
Allez, on passe aux questions des auditeurs et auditrices. Alors justement, c'était la question de Gilles, quelle est la part du renouvelable dans les investissements du Vatican, Dominique Lang ?
Alors c'est pas le Vatican, enfin le Vatican le fait sur sa cité, état, hein, sur le petit état, qui sont quelques hectares, et il y a effectivement une volonté, le pape a demandé d'agir, de transformer. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce qui se passe dans les épiscopats à travers le monde entier. Et là, on voit notamment dans le désinvestissement financier, qui est un grand mouvement international, et on voit des institutions catholiques souvent puissantes aux États-Unis ou dans d'autres pays, aux Philippines ou ailleurs, qui décident de faire bouger leur fonds financiers vers des choses plus éco-responsables, etc. Et ça, c'est un vrai impact.
Ulysse nous dit, Pape écolo, vous êtes gentil, mais avec le nombre de ses déplacements, avec son staff, plus ceux des populations locales, bonjour l'empreinte carbone. Personne ne sera épargné. Hein.
C'est même évident, pas le pape, c'est les incohérences. Bon, après, il ne voyage pas tout seul dans son petit jet privé, donc on peut déjà lui reconnaître ça. Mais c'est sûr qu'il faudrait se poser un jour la question, est-ce qu'on ne peut pas voyager autrement ? Est-ce qu'on ne peut pas... changer ce modèle-là aussi.
Ulysse, non, c'est Christian, pour vous peut-être, Cécile Duflot, qui dit, est-ce qu'il ne serait pas temps que les partis écolos se réapproprient publiquement la religion chrétienne et le message d'amour inconditionnel du Christ ? Ne la laissons pas seulement dans les mains des identifiés d'extrême droite. Où est la gauche chrétienne ?
Oula, ils ne sont pas qualifiés pour répondre en son nom. Ça fait longtemps maintenant que j'ai plus de responsabilité politique. Ce qui est sûr, c'est que vous l'avez dit tout au début, il y avait une sorte de timidité à exprimer sa religion pour deux raisons, à mon avis. La première, c'est que je pense que pour beaucoup, c'était des gens qui étaient très éloignés. Si je prends ma situation, oui, il y avait une distance qui s'était créée après Jean-Paul II, après Benoît XVI, une sorte de fossé avec l'Église catholique, on va dire les cathos de gauche des années 70-80. Donc ça, c'était une première réalité. La deuxième, c'est le rapport effectivement à la religion particulière en France et l'importance de la laïcité et la prudence des élus sur ces questions-là. Mais je trouve que c'est bien aussi. Enfin, je suis une fervente défenseuse de la laïcité dans ce qu'elle permet de dire que les décisions des responsables politiques ne sont pas prises parce qu'ils obéiraient à tel ou tel responsable religieux, même si c'est le pape et même s'il écrit des trucs super sur Laudato Si. Quand on a une responsabilité politique, on l'a pour l'ensemble de ses concitoyens qui croient en Dieu ou qui n'y croient pas du tout.
Marie-Christine nous dit, on n'en peut plus du pape, et vous aussi qui remettez une pièce dans la machine, écolo, why not, mais absolument pas féministe ni progressiste malgré tout ce qu'on raconte. Jean-Dominique nous dit, je suis très heureux que le pape François ait mis une encyclique sur les enjeux écologiques, mais j'aimerais souligner que le Conseil œcuménique des églises qui regroupent pratiquement toutes les autres églises du monde, mais dont l'église catholique a toujours refusé de faire partie, travaille sur le thème soins de la création et justice climatique en collaboration avec l'ONU depuis les années 80. Et
ils ont été précurseurs de longue date, hein, et parce que ce sont notamment des réseaux protestants qui sont souvent beaucoup plus engagés dans la militance associative dans les pays du monde, et donc ils ont vu cette thématique remonter beaucoup plus fortement et l'ont travaillé plus tôt que les autres.
Un message de votre consoeur Marie-Monique Robin qui nous écoute, qui nous dit ceci, j'ai beaucoup cité Laudato Si dans mes conférences, à une exception près, le passage sur les OGM rédigé par un lobbyiste de Monsanto. Dominique Lang, vous êtes au courant de ça ?
C'est une histoire assez étrange, c'est que on a retrouvé dans les Vatilics, donc qui étaient ces documents qui à un moment donné avaient diffusé, des échanges où on a vu un lobbying de Monsanto très actif pour convaincre un certain nombre de prélats pour empêcher toute expression publique contre les OGM. Et moi, j'ai un peu enquêté sur place.
Étonnant, et oui. Ça vous a mis la puce à l'oreille.
Eh ben, on a vu que ça, effectivement, c'était très actif. Parce que quand vous êtes face à un prélat qui ne connaît rien, en fait, c'est des sujets scientifiques, vous ne savez pas, et vous avez face à vous un bon petit catholique qui vous dit « Non, mon père, tout va bien, soyez rassuré, c'est la science, c'est le progrès, c'est pour les plus pauvres et tout ça. Ben, » vous vous laissez un peu enfumer, quoi. Et donc, ils ont organisé, financé même des petits colloques au Vatican pour dire « Non, mais tout va bien, les OGM sont maîtrisés, etc. » Et on en est un peu resté là. Et c'est ça le problème dans le texte du pape, c'est que là, on a manqué d'expertise.
Ouais. Le pape s'est fait enfumer.
Sur ce sujet-là, oui.
Anne-Catherine nous dit, il existe un mouvement œcuménique Église verte qui permet aux communautés chrétiennes d'intégrer l'écologie dans les actions quotidiennes de nombreuses églises, communautés ou même des chrétiens en famille y ont adhéré. Je suis protestante, je ne connais pas le texte Laudato Si, mais nos actions sont en accord total avec ce texte.
Oui, c'est la bonne nouvelle aussi, c'est que c'est un peu un des fruits de la COP21 à Paris, c'est que les communautés chrétiennes qui ont été présentes, et les autres religions aussi, mais en tout cas les communautés chrétiennes, se sont rassemblées en disant on ne peut pas rester là, il faut qu'on agisse. Et c'est comme ça qu'est né le mouvement Église verte, qui a diffusé maintenant dans les paroisses tout ce travail.
Dominique Bourg, pour terminer, Jean-Luc, un autre message après la rencontre de J.D. Vance avec le pape François juste avant son décès. Est-ce qu'on ne peut pas craindre une forte pression des réactionnaires US, mais aussi de l'ensemble des forces d'extrême droite sur l'Église catholique pour l'élection du nouveau pape ?
Si, mais comme vous le savez, 80% des cardinaux qui ont le droit de vote ont été nommés par le pape François. Bon, on verra bien, on ne sait pas du tout ce qui va sortir, mais il est vrai que cette pression, elle existe, c'est absolument évident. Alors, cascade catholique, J.D. Vance, franchement, moi, je vous le demande. Mais bon, ça existe, et il y a une réappropriation, alors un peu à la morasse, de l'Église catholique par la partie la plus réactionnaire de cette planète. Voilà. Est-ce qu'ils auront une influence suffisante ? J'espère que non.
Merci en tout cas à tous les trois. Génération Laudato Si, c'est ce livre que vous signez Dominique Lang aux éditions Bayard. Dominique Bourg, vous signez Dévastation, la question du mal aujourd'hui, c'est aux presses universitaires de France. Et puis Cécile Duflot, il y a toujours un bon rapport à lire sur le site d'Oxfam France, j'imagine ?
Oxfamfrance.org,
exactement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui pour ce dossier. N'hésitez pas à continuer, réagissez. Téléphonez sur le répondeur pour nous faire part de vos commentaires. 01 56 40 45 45. Vos messages seront diffusés demain sur l'antenne.